Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 146. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Alors mon invité aujourd'hui est Shanti Bairel. Shanti est une femme entrepreneur qui a réussi à monter une entreprise par conviction, improvisation, détermination et créativité, tout en intégrant sa personnalité. Créée en 2013, Shanti Biscuit produit des biscuits de qualité sur lesquels on peut avoir incrusté des messages personnalisés. En 2018, elle a été décernée le prix Clémentine au Business Awards Veuve Clicquot. Dans cette conversation avec Shanti, nous discutons de son parcours remarquable, comment créer sa voix, comment profiter des réseaux sociaux, la notion de la raison d'être, et on déballe ses failles, forces et pensées philosophiques. Une conversation magnifique. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Shanti Biscuit, Shanti Bairel, un plaisir de t'avoir sur mon podcast. J'ai adoré ton livre. Je suivis ton parcours et surtout, j'ai eu l'occasion de déguster tes biscuits. Dans tes mots propres à Shanti, qui es-tu ?
Qui je suis ? C'est une grande question. On va dire que je suis connue pour être la Bisqueen, fondatrice de Shanti Biscuit, la reine des biscuits, parce que j'ai monté une entreprise qui s'appelle Shanti Biscuit depuis 10 ans, qui fait des biscuits personnalisés. Au-delà de ça, je suis une fille, j'ai plus envie de dire une fille qu'une femme. Je vis dans le sud de la France. Je me considère comme quelqu'un de créatif, avec 50 000 idées à la minute, d'où ma boîte. Voilà, qui aime bien les challenges, qui aime bien voyager. Pas mal.
Génial. Et je me demandais si tu as pris plaisir à écrire ton livre, La vraie histoire de Shanti Biscuit.
Oui, alors en fait, moi je me suis toujours dit, un jour j'écrirai un livre, parce que j'adore écrire tout ce qui est rédactionnel de Shanti Biscuit, c'est toujours moi qui écris les newsletters, les posts Insta, tous les textes du site, et je sais pas, c'était un truc que j'avais envie de faire un jour, et pendant le Covid, vu que je m'ennuyais un peu, j'ai lancé une newsletter pour mes potes, donc qui était privée, secrète, parce que je voulais un espace d'expression sans avoir mes salariés qui puissent lire ou le jugement du public, etc. Vraiment un endroit safe. Et j'ai commencé à raconter ce que j'avais appelé comme la vraie histoire de Shanti Biscuit, parce que comme c'était pour mes potes, c'était les vrais détails, tout ce que je n'ai pas dit dans des podcasts, dans des interviews, etc. Et donc j'ai envoyé ça un peu comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai eu quasiment, pas toute l'histoire, mais une grosse partie écrite vraiment comme je parle, avec des photos, des gifs, des blagues, etc. Et l'année dernière, il y a une fille qui m'a proposé d'écrire la préface de son livre, parce qu'elle écrivait un livre sur Instagram, donc j'ai accepté, j'ai écrit la préface. La maison d'édition a beaucoup aimé ma plume, et comme j'avais dit à cette fille, ouais, un jour j'aimerais bien écrire un livre, etc., elle m'a dit, bah, vas-y, rencontre-les, juste comme ça. Donc j'ai rencontré, comme ils m'avaient déjà lu mon style, ils avaient bien aimé, je leur ai envoyé quelques newsletters que j'avais faites et en fait on a compilé et puis après on a rajouté la suite, on a étoffé, fait les transitions, etc. Donc ça s'est fait assez facilement, on va dire. C'est pas comme si je m'étais dit je prends la page blanche, je démarre mon livre. Là ça aurait été compliqué.
Oui, certes. Je connais pas intimement la maison des éditions Erol, et ta façon d'écrire est tout à fait différente de ce qu'on imaginerait, pour moi, de cette maison, car tu as écrit avec beaucoup de fluidité, beaucoup de spontanéité, tes emojis, plein de moments en majuscules. Donc, c'était très drôle à lire. Est-ce que ça, c'était quelque chose qu'ils ont dit « Allez, vas-y, fonce !» Ou est-ce qu'ils ont parfois dû dire « Ah, attends, freine un peu là, il faut que ça soit un peu plus sérieux », des choses comme ça.
En fait, quand j'ai rencontré la personne qui était mon interlocutrice chez Errol, je lui ai envoyé ma newsletter qui était complètement écrite comme ça, avec des emojis, et vraiment, j'écris comme je parle. Et c'est aussi un peu la ligne éditoriale de Chantier Biscuit, c'est « on parle comme dans la vraie vie ». Donc je voulais garder ce ton, et quand elle l'a lu, elle m'a dit « non mais il faut conserver ça ». Et moi je voulais aussi un livre qui me ressemble, et je me suis dit « je ne pourrais pas écrire un livre formel, enfin plus formel, ou très business ». Je dis « moi c'est soit ça, soit je ne le fais pas ». Et j'aime cette proximité, où, en fait, même mes salariés ou mes amis qui ont lu, ils m'ont dit « j'entends ta voix qui parle ». Et c'est cet effet que je voulais donner, et ils ont complètement suivi, on n'a rien changé. Après il y a eu quelques petites phrases, on a reformulé, mais c'est vrai qu'il y a des phrases où, genre, je peux te dire « j'aime pas » ou « je n'aime pas » et ils vont pas corriger, par exemple.
Exactement, je voulais savoir juste jusqu'où cette conversation est allée, parce que enfin, c'est très frais.
J'ai pas du tout aimé me battre, ils étaient dans ce sens complètement. C'est pour ça que j'ai fait avec eux aussi.
Bien fait pour eux. On va revenir sur ce ton et la voix tout à l'heure, mais ce livre, La vraie histoire de Chantier Biscuit, tu l'as écrit pour qui?
En fait, quand j'ai écrit ma newsletter, je pense que je l'ai plus écrite pour moi, parce que j'avais une sensation d'imposteur, mais pas d'imposteur dans le sens où je ne suis pas légitime de Chantier Biscuit, mais imposteur dans le sens où parfois je ne peux pas dire toute l'histoire parce que... j'aime pas dire quand ça va mal sur le coup. En fait, moi, j'aime bien le raconter après, etc., avec le recul, avec la capacité de voir les choses différemment. Et donc, au début, je l'ai écrit, moi, pour mieux me comprendre. En fait, le fait d'écrire, je pense que ça met de l'ordre dans ma tête, pour mes potes, pour leur montrer aussi la vraie histoire, et pour moi, pour me dire, OK, je peux dire ma version. Donc, je l'ai pas forcément écrite pour les autres. Je pense qu'il était plus destiné d'ailleurs à des gens, ceux qui s'avaient plus touché, c'est plus des entrepreneurs au sens très très large. Quand tu veux te lancer dans un projet, parce que tu peux ressentir la passion, les difficultés, les décisions à prendre, etc. Mais je l'ai écrite plus dans un but thérapeutique et le besoin de dire ma vraie version des faits.
Et ça se sent. Et ce qui est marrant pour moi dans ma tête, j'ai fait peut-être 100, 700 entretiens jusqu'alors, et en anglais et en français. Et la petite histoire dans ma tête, c'est que ce sentiment de être authentique dans ton expression de livre et aller vers la vraie histoire qui comprend les merdes, les problèmes, les états d'âme, c'est quelque chose que je trouve les femmes arrivent à faire mieux que les hommes.
Ah oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord que les mecs, ils peuvent avoir un côté, on ne montre pas notre vulnérabilité, on est des mecs, on est forts, c'est un peu la course de qui est le meilleur, etc. Que nous, on a, je pense de manière générale, les femmes ont moins de mal à montrer leurs émotions que les mecs, à prendre du recul. Et même, je vois dans les discussions que je peux avoir avec mes copines, ce n'est pas les mêmes discussions qu'avec des mecs, parce que ça ne les intéresse pas aussi de parler de comment ils ont ressenti le truc à ce moment-là, etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi.
Et puis, en étant un mec qui a lu ton livre, il y a des sujets, par exemple, ton poids. Tu parles souvent de ton poids dedans et tu parles de tes émotions. Et c'est pour un homme qui, généralement, n'est pas aussi expressif que ça. C'était très engageant en fait. Et les hommes, en tout cas, ceux qui ne sont pas capables de montrer la vulnérabilité, devraient prendre comme exemple ton livre. Et comme quoi, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas en montrant ta vulnérabilité que les gens vont penser moins de toi. En fait, ils vont s'attacher plus à toi.
Exactement. Et un jour, quelqu'un m'a dit, c'est quand on montre sa singularité que les gens peuvent vraiment s'identifier, parce que le sentiment on l'a tous un peu vécu. Mais c'est sûr qu'il y a eu, à la fin j'ai fait un petit coup de pression, je sors plus le livre, je suis allé trop loin, j'ai dit trop de trucs perso, etc. Mais comme le message final c'est pas de se victimiser, etc., c'est plus de montrer par quoi je suis passé pour en arriver là aujourd'hui, je trouve ça passe. Mais même mes potes mecs qui l'ont lu, j'ai des pavés après, oh, merci, ça m'a touché, etc. Et je pense que c'est des petits trucs qu'on peut tous ressentir à un moment ou un autre de notre vie sur un sujet quel qu'il soit, quoi. Et il n'y a pas de problème. Après, je me dis, oui, peut-être qu'il y en a qui ne ressentent pas, qui ne se sentent pas aussi mal sur ces points-là et qui ne comprennent pas. Mais en fait, ce n'est pas grave.
Oui.
À un moment donné, c'était plus aussi un moyen de m'accepter complètement de ce que j'ai vécu. Et de montrer aussi aux gens que tu peux être comme ça en fait, et le moment où tu es en bas, ça te définit pas non plus, quoi.
Et en fait, ça te donne, enfin, ça nous donne en tant que lecteur permission d'être un peu comme toi et d'aller dedans, parce que tu racontes tous tes, enfin, des états d'âme, des vraies émotions. Et en fait, quand tu as nommé ça la vraie histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire. Et les histoires, comme je viens de dire, font des petites histoires. Racontent, on s'engage à travers des histoires et ça me ramène vers mon histoire. Et donc, comme ça, on se sent. Évidemment, quand on a écrit un livre qui est aussi frais comme ça, en tant que lecteur, moi, j'ai l'impression de te connaître. Toi, tu ne me connais pas du tout. Donc, je dois être conscient de ça dans notre entretien. Donc, tu as dit, parmi les... Il y a beaucoup, beaucoup de phrases qui sont intéressantes à décortiquer. Et il y en a un, on a parlé de la vie d'entrepreneuriat. Tu dis, l'entrepreneur pousse vraiment dans les retranchements. Et je me demandais, est-ce que tu pouvais nous expliquer comment et pourquoi ça nous pousse dans les retranchements?
Oui, déjà, je pense qu'on est amené à vivre des situations humaines. On n'est pas forcément préparé à vivre à la base, surtout quand tu as un projet, tu fais pour la passion du projet et tu es tellement pris par l'ambition, la passion, l'envie d'arriver à ton objectif, que forcément tu vas traverser plein de difficultés. Mais tu es tellement tiré par là où tu veux aller que tu es obligé de les passer et ça peut être plein de situations différentes, de stress, de. Tant que financier, que challenge technique, que humain, et tu y vas quand même. Et c'est là où c'est compliqué, ou même des décisions. Moi, je suis très mauvaise dans la relation humaine. Enfin, je suis pas une bonne communicante. Enfin, je suis une bonne communicante sur la com de Chantier Biscuit, mais la communication avec les personnes, c'est très compliqué pour moi d'avoir des conversations difficiles, de gérer les conflits, etc. Mais je suis obligée. Et ça a été parfois très, très douloureux. Je suis obligée de me former, de me faire accompagner, etc. Et je suis obligée de le faire pour la survie de mon projet.
Et alors, ce qui est étonnant en te regardant et avec tes jolis vernis à ongles et enfin, ta présence, tu te décrivais comme étant timide. Enfin, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins le cas.
Oui.
En public peut-être, ou, je sais pas, en privé. Mais comment passe-t-on de timide à extravagante?
Alors, c'est vrai que moi, j'étais vraiment la personne qui parle pas à l'école, qui parle pas dans les groupes, etc. Et en fait, ça a été petit à petit. Je pense que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé pour ça. Parce que c'est déjà plus facile de parler derrière ton téléphone que dans la vraie vie. Donc, ça m'entraîne de voir aussi qu'il y a des gens qui aiment t'écouter, qui aiment te regarder. Et avec le téléphone, tu peux refaire. Et d'avoir Chantier Biscuit, ça m'a aussi donné un sujet de conversation, on va dire, et un intérêt. Et ça m'a du coup obligé à parler, même que ce soit d'aller voir des clients, de vendre Chantier Biscuit, alors que j'aurais jamais osé un jour taper à la porte d'un hôtel, je peux vous vendre des biscuits. Et tu vas dans des situations toujours un peu plus grandes, on va dire. Après, tu prends la parole sur scène, sur un événement, etc. Ça me fait toujours peur, mais de moins en moins. Et puis, à force, t'es habitué à ton discours, tu t'ouvres. Mais je pense que c'est surtout les rendez-vous clients et les événements auxquels j'ai participé qui m'ont aidé. Mais en fait, c'est vraiment petit à petit, quoi. Et après, tu prends la confiance en toi dans ces situations et même les autres situations de ta boîte où tu réussis des choses. Forcément, tu prends toujours un petit peu de confiance en toi et ça débloque.
En fait, ce que tu décris, c'est que c'est un processus. Enfin, ça
Exactement,
prend du
c'est
temps.
C'est pas du jour au lendemain.
Et oui, et puis j'imagine qu'il peut y avoir encore des moments de timidité quelque part.
Ah, bien sûr. Après, moi, j'arrive facilement à parler de chantier biscuit, parce qu'en plus, c'est un sujet que je maîtrise de A à Z. J'ai toutes les réponses aux questions aussi, donc c'est beaucoup plus facile. Mais tu me mets dans une situation où je dois parler d'autres choses, ou si je dois aller, je dis n'importe quoi, je suis à un mariage, je connais personne, et aller parler aux gens pour me faire des potes et pour m'incruster dans les conversations, là, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, ça dépend du contexte. Ouais.
Oui, alors il y a quelque chose que j'ai remarqué puisque je suis un homme de marque. Tu parles souvent donc de ta présence en ligne, l'Instagram, le compte Instagram, celui qui est pour la marque et puis tu as le compte qui est privé, enfin à ton titre perso. Mais tu dis que tu as trouvé ta voie quelque part pour Chantilly Biscuit sur Instagram. Et mon constat, enfin ma demande d'abord, c'est pour toi, c'est quoi une marque?
Wow, pourquoi c'est quoi une marque? Attends, je suis c'est quoi une marque? Une bonne question. Bon, forcément, je l'associe à une entreprise, mais tu peux avoir des entreprises qui n'ont pas. En fait, je pense que toute entreprise est plus ou moins une marque. Ouais, je ne sais pas. moi, je dirais qu'en tout cas, Chantilly Biscuit, je voulais faire une marque qui marque. Déjà par le nom, en fait, c'est quelque chose dont on se rappelle, qui laisse une trace, qui a une identité. Et je dirais, oui, c'est l'âme, c'est l'identité, c'est la personne que l'entreprise pourrait définir, tous ses traits de comment elle parle, comment elle agit, c'est quoi ses valeurs, etc. Et ouais, c'est l'identité de l'entreprise, je dirais.
Et puis, enfin, je parle de ça puisque j'ai beaucoup navigué ce besoin d'avoir une voix différente quand j'étais chez L'Oréal. Alors, chez L'Oréal, on a une panoplie, on avait, enfin, moi j'étais là il y a 13 ans, 14 ans maintenant, mais on avait plein de marques et la difficulté était de pouvoir imposer une tonalité très différente qui était incarnée par quelque part, quelqu'un comme toi. Et ce que je remarque, c'est que, en fait, la voix qui est présente sur Instagram, c'est ta voix.
Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver la tonalité d'une marque comme Chantilly Biscuit qui est incarnée, qui est née de mes tripes, que de prendre une très grosse marque qui existe et qui en plus a 50 000 concurrents, etc. Nous, on est assez unique. Mais oui, en fait, le compte Insta, c'est toujours moi qui l'ai géré. C'est toujours moi qui ai parlé, donc ça a toujours été ma voix, et comme c'est moi qui ai défini ce qui est Chantilly Biscuit et comment on parle, à force de le faire, forcément c'est ma voix, mais c'est vrai que c'est un sujet de comment je le délègue, comment j'apprends aux autres de l'équipe à avoir cette voix, très très compliqué. Et aujourd'hui, en fait, je dirais oui et non que la voix de Chantilly Biscuit, c'est ma voix. C'est ma voix officielle, on va dire, c'est ma voix sur les réseaux. Mais j'ai pas envie non plus de devoir imposer à toute l'équipe, par exemple, de parler comme moi. Parce que le message aussi de Chantilly Biscuit, c'est assume-toi tel que tu es, be yourself, etc. Avec les valeurs de la marque. Mais moi, je dis à mes salariés, vous parlez aux clients, etc., comme si vous parlez avec vos mots, quoi. N'utilisez pas forcément mes mots. Bon, il y a des expressions qu'on ne dit pas. Par exemple, nous, on dit toujours biscuit, on ne dit pas gâteau, tu vois, des petites choses comme ça. On ne va pas dire cordialement à la fin d'un mail, mais le reste, en fait, parler normal, quoi.
C'est drôle, pas de cordialement. Et parce que moi, j'aime signer cordialement
Ah oui.
avec le cœur qui est dedans. Et puis, mon nom de famille, c'est Dial, donc je me sens légitime dans
Oui,
l'utilisation de
c'est
ce
vrai.
mot. Alors, pour cette histoire de transmission, ce qui est intéressant de ce que je t'entends, c'est que tu essayes d'encourager les gens qui parlent au nom de Chantilly, de parler comme eux avec quelques règles style linguistique, parce qu'en fait,
Exactement.
ça forme et ça forge la marque quand il y a des mots
Exactement.
qu'on utilise pour forcer.
Voilà.
Toute une difficulté pour les gens dans les entreprises de s'approprier
Oui.
une tonalité quand
Oui.
ils ont des actionnaires,
Bien
des
sûr.
pains de chef et tout
Bien
ça.
sûr.
Donc, en tout cas, ça s'exprime. Et donc, tu as plus de 100 000, bien plus de 100 000 followers sur Chantilly Biscuit sur Instagram. J'encourage tout le monde d'y aller. Juste, il faut qu'on parle quand même un peu de Chantilly Biscuit. Donc, raconte-nous un peu l'entreprise qui est Chantilly Biscuit, parce que je voudrais parler un peu de ce que tu vends.
Donc, on est une entreprise qui fabrique et qui vend des biscuits personnalisés, donc des biscuits sur lesquels on peut graver un message. Ça peut être même un logo, un petit dessin, une phrase, etc. Et l'idée, c'est que vous commandez en ligne, vous nous donnez votre personnalisation, on fabrique les biscuits nous-mêmes et on vous les livre. Et ce qu'on vend, c'est un cadeau. Moi, je dis toujours, les gens achètent nos biscuits, mais pas pour les manger, pour les offrir, même si quelqu'un va les manger au final. Donc on ne se compare pas du tout à des biscuits de goûter. Nous, on est plus comme un bijou, un bouquet de fleurs dans l'utilisation. Et depuis 2 ans, on a lancé d'autres produits complémentaires aux biscuits, des sucettes personnalisées, des boîtes de thé avec des messages, une bougie avec une odeur biscuit et un message, toujours dans le côté cadeau, univers biscuit. Notre marque, c'est vraiment l'univers du biscuit au sens très large, le biscuit étant le cœur de la boîte. Et on vend autant aux entreprises qu'en particulier.
Et pour avoir goûté, je peux dire que le goût est bon.
Oui, je voulais surtout pas qu'il y ait un effet c'est beau, ah ouais, mais c'est pas bon. Voilà, je veux surtout pas
Oui. Ben, en fait, ça c'est typiquement, on va dire, une mentalité de pays comme la France,
Oui.
où le côté bon dégustation reste important. Et pour dire, ça a passé le test avec ma femme. Donc ça, c'est un grand coup. On a adoré ça. Donc pour les gens qui comprennent, quelle est la difficulté que tu as traversée? Parce qu'en fait, faire des biscuits imprimés, wow, belle idée, mais il paraît que c'est pas si facile que ça. En tout cas, ça n'a pas été facile d'exécuter ton rêve initial.
Exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré, heureusement que je ne me suis pas posé beaucoup de questions et que je ne me suis pas dit comment on va faire pour faire du volume, etc. Après, si on doit acheter des machines, parce que sinon je me serais fait peur direct. Et à la base, j'ai démarré en faisant les biscuits au rouleau à pâtisserie dans ma cuisine. Donc vraiment à la main, je faisais la pâte, je découpais les biscuits, je les personnalisais en les tamponnant avant la cuisson, je les emballais, je les emmenais à la poste. Je faisais tout moi-même. Donc j'avais passé 4 mois à peu près à tester des recettes. Tous les jours, je faisais une série de biscuits. J'avais plein de parfums de biscuits différents. Et la difficulté déjà, c'était d'avoir un biscuit qui soit beau et bon et où le message des biscuits soit bien net. Parce qu'en fonction de la recette, le message, il peut craquer, il peut fondre à la cuisson. Donc déjà ça. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai trouvé les recettes. Et en fait, deuxième difficulté, c'est quand on est passé sur les machines. Donc, on a acheté des machines de biscuiterie artisanale standard. Et je me suis dit, bah, moi, je vais prendre ma recette, je vais la mettre dans la machine. Et puis, voilà quoi. Et sauf que pas du tout. La pâte, elle collait, les biscuits, ils restaient dans les moules. Enfin, bref, c'était horrible. Et même le vendeur de machines m'avait dit, mais Chantilly, pourquoi vous croyez que les biscuits de l'industrie, c'est pas le même goût que les biscuits maison? C'est parce que les pâtes ne sont pas les mêmes et ça passe pas dans les machines. Il faut des pâtes moins grasses, il faut enlever du beurre, etc. Moi, je suis là, mais en fait, ça ne va pas être possible. Déjà, moi, j'ai ma recette et ça va pas être aussi bon. Moi, je n'ai pas envie d'avoir le goût d'un biscuit industriel. Donc, grosse remise en question. Et finalement, j'ai trouvé une ingénieure qui fait de l'optimisation d'usines agroalimentaires, etc., de pâtes, de process, qui est venue et qui m'a aidé à trouver le process pour que la recette fonctionne en machine, enfin, pour avoir le même résultat gustatif que j'avais à la base. Ils sont encore meilleurs. Et en plus, c'était plus solide, parce que ça aussi, c'est important. Et je voulais en plus un biscuit naturel, donc sans conservateur, sans solidifiant à l'intérieur, etc. Et elle a réussi à trouver. Et en fait, c'est une question et d'ingrédients, mais de process surtout. C'est-à-dire que si je vous donne les quantités d'ingrédients, vous ne pourrez jamais les refaire. Déjà parce que la recette machine ne passe pas à la main. En fait, ça va pas dans, c'est pas les mêmes types de pâtes. Et parce que c'est vraiment, il faut mélanger tels ingrédients ensemble tant de temps, à telle vitesse, et dans un ordre précis, et si on change un petit truc, ça ne marche plus. Et voilà, c'était vraiment de la science.
Ça, c'est donc la propriété intellectuelle quelque part, tout ça. Ça me rappelle la formule de Coca-Cola,
Ah,
c'est-à-dire
c'est un peu ça.
top secret.
C'est ça.
Donc, il y a un mot qui parmi d'autres, me paraît important dans ta vie, c'est l'ambition.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.
Et je me demandais combien l'ambition a été le moteur non seulement du succès, mais aussi de ta conversion d'une femme fille, timide à quelqu'un qui est bien plus extravagante.
Déjà, j'ai beaucoup changé mon rapport à l'ambition, je pense, cette dernière année. J'ai toujours eu une énorme ambition pour Chantier Biscuit, dans le sens où je visualisais un truc énorme, sans pouvoir mettre un chiffre derrière ou vraiment savoir combien de salariés j'aurais, etc. Mais je me disais, non, mais un jour, on sera dans tous les hôtels, on aura une énorme boutique à New York, on sera chez Air France, etc. Et c'est aussi ce qui a embarqué les équipes à chaque fois, parce qu'en fait, c'est venez, on va construire un truc de ouf, quoi. On peut partir dans tous les sens, faire des opérations de com super fun avec les messages, etc. Donc ça embarque vraiment les gens dans une histoire. En plus, on est en train de construire ensemble. Et aussi du fait que j'ai pas fait d'études, c'était un peu mon premier vrai travail, et j'avais l'impression en tout cas que c'était ma seule possibilité d'avoir un travail que j'aime et d'aller loin, etc. C'est aussi ça qui m'a fait tenir en mode ok, bah là c'est parti, c'est nos limites, on y va, et on voit toujours grand. Et il y a aussi un côté où j'ai besoin de m'amuser et faire de nouvelles choses. Donc tout ce qu'on a déjà fait, en fait, ça m'amuse plus. J'ai besoin toujours d'un truc un peu plus grand, un truc nouveau, un nouveau défi. Donc c'est aussi ça, c'est quoi à chaque fois le prochain truc. Mais depuis l'année dernière, j'ai un peu changé, où je me dis, bon, en fait, c'est quoi l'intérêt au final d'avoir un truc énorme en soi? Gérer 2000 personnes, ça me fait plus rêver. Alors qu'avant, quand tu ne te rends pas compte de comment la réalité t'a rendu, que là, mon équipe de 15, c'est très bien. 15, c'est parfait, on se connaît tous, c'est facile à gérer. Donc, je pense que j'ai plus compris la réalité, même financière, logistique, etc. Tu redescends. Et je me dis, en fait, là, j'ai atteint un stade où j'aime la boîte, on vient tous s'amuser. Est-ce qu'on a besoin de faire un truc plus grand pour faire un truc plus grand? C'est sûr qu'on a envie de toucher plus de monde et de grandir, parce que c'est ce qui nous anime aussi. Mais j'aurais pas la sensation maintenant d'avoir raté ma vie si j'ai pas une boutique à Tokyo, à Londres, etc.
on sait jamais, mais il semblerait que l'ambition nous pousse à vouloir toujours faire de progrès. Et dans la définition de ce progrès, progress, c'est faire plus. Ce n'est pas forcément améliorer en côté qualité, mais faire plus, parce qu'on vit dans un monde de consommateurs. Les actionnaires généralement demandent plus de profit, plus de chiffre d'affaires. Et donc, ça devient un engrenage qui est très facile à rentrer dedans, surtout si tu n'es pas actionnaire majoritaire, qui permet de dire aux autres, calmez-vous.
Et puis, c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu dois rendre l'argent. Et logiquement, tu vends une plus-value aussi. Donc, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes ces derniers mois, où on est là à se dire, si je remonte une boîte, plus jamais je lève des fonds. Bon, moi, j'ai fait un petit tour de financement en 2018, et moi, je n'avais pas de problème de rentabilité, mais j'ai des copines qui en sont à leur troisième levée de fonds, avec des énormes enjeux de retour sur investissement. Tu es pris dans un engrenage où tu ne peux plus te dire on redescend, parce qu'en fait, tu t'es engagé, les mecs ils t'ont donné de l'argent, etc. Et c'est vrai que déjà, quand tu n'as pas d'actionnaire, c'est toi qui te donnes le rythme, tu n'as pas forcément un besoin de croissance dans ce sens-là. Alors que quand tu lèves de l'argent, tu définis une valorisation qui est future et pas présente, donc tu es obligé d'aller l'atteindre, sinon tout le monde perd son argent. Et rien que ça, ça te pousse, quoi.
Absolument. Je parle beaucoup de ça dans un contexte de gouvernance. Car si tu es obligé de rendre des comptes à autrui, Un, bah, ça va nous amener à faire l'engrenage. Deux, ça va t'enlever un peu de l'équation parce que tu ne peux pas juste faire comme tu veux.
Exactement.
En fait, quelque part, on a toujours des patrons. Et tu as parlé de plein de tes relations. J'étais particulièrement touché au tout début de la relation et ensuite la fin de la relation avec Paul et Arthur. Et tu as parlé de fait, tu as dit, dès qu'on touche à l'ego et à l'argent, les gens sont imprévisibles, voire irrationnels. Alors l'ambition, évidemment, va être liée à ces éléments de l'ego, parce que moi, je veux arriver à faire ça, et l'argent qui est un peu typiquement la clé ou la façon de définir succès.
Ah oui, complètement. Et en plus, tout le monde a un rapport différent à l'argent. Enfin, moi, comme j'ai démarré sans argent, je sais que mon but n'est pas d'atteindre un certain chiffre d'affaires de Chantilly Biscuit, c'est plus ce chiffre d'affaires va nous permettre de faire un truc cool et c'est ça qu'on veut faire. Donc on est obligé d'avoir l'argent, donc je le vois plus comme ça. Mais c'est sûr que c'est la définition du succès pour beaucoup de gens. C'est le gain d'une guerre potentielle. Tu vois, quand tu veux te séparer de quelqu'un, en fait, t'as l'impression que c'est l'argent qui va définir qui a gagné, avec combien tu pars, même dans tous les conflits, salariés, etc. Au final, c'est que de l'argent, quoi. Mais parfois, c'est de l'ego et en fait, pas forcément besoin. Et moi, plusieurs fois dans la boîte, je donnais de l'argent aussi pour acheter ma liberté, ma paix de l'esprit, etc., résoudre des problèmes. Et en fait, si ça m'aide à passer un palier plus vite, autant s'en servir.
Absolument. Tu as écrit, et je trouvais ça très fort, et dans ce contexte très pertinent, la prison est dans la tête. Explique-nous comment tu gères cette prison.
Très compliqué, sujet même actuel encore parfois. Je pense que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'avancer, prendre des risques, etc., c'est des barrières mentales plus que techniques. Et c'est sûr qu'il y a eu des moments où j'ai voulu partir de la boîte parce que j'en avais marre, que j'étais fatigué, etc. Et en soi, je ne suis pas enchaîné, quoi. Je pourrais partir. Mais c'est en fait, il y a un truc qui m'empêche mentalement de faire ça, qui peut me bloquer sur certaines, je sais pas, certaines vidéos que j'ai envie de faire, mais j'ose pas. Même ne serait-ce parfois que arriver à prendre des vacances, en fait, je pourrais très facilement m'organiser et c'est que dans ma tête. Et c'est vrai que même parfois, je dis à ma psy, mon cerveau, c'est à la fois tout mon génie, mais c'est aussi tout. J'ai un dark side très fort, quoi, qui essaie d'arriver à gérer ça. J'aurais le
Enfin,
cœur du sujet.
et ça, quelque part, pour moi, c'est le cœur de mes écrits aujourd'hui, c'est d'arriver à embrasser ce dark side. Car en fait, d'imaginer que je suis parfait, que je ne fais que du bon et du bien, que je suis quelqu'un de bien et que ça nous met dans cette idée-là, une prison.
Ah oui, aussi. Et c'est sûr que moi, j'ai une personne dans la boîte à un moment donné qui arrivait pas qui avait du mal à assumer la com, parfois un peu décalé ou osé, de Chantilly Biscuit. Et c'est vraiment dans la tête parce qu'elle avait une image à renvoyer de par sa famille, etc. Et il y a un truc, en fait, mental, quoi. Oui, je suis certain, mais c'est un sujet hyper intéressant.
En effet, et puis à la fin du livre, tu parles de dit, on attire ce qu'on renvoie. Donc
Ah oui, complètement.
la manière qu'on est, ça va attirer enfin, ceux qui viennent être avec toi. Et quelque chose qui était frappant, c'est que tu as beaucoup souligné le fait que tu es une âme solitaire. Or, tu es aussi quelqu'un qui dit, ben, je vois l'importance de mon réseau. Ça semble un paradoxe.
Alors, j'ai toujours l'impression d'être solitaire, un peu malgré moi, dans le sens où je ne suis pas proche de mes parents, je vis toute seule, voilà, célibataire, j'ai monté ma boîte toute seule. Je passe beaucoup de temps seul et ça ne me dérange pas, en fait, que j'ai pas peur d'aller au resto toute seule, etc. J'ai aussi besoin et envie d'être entouré, de rencontrer des gens, de passer du temps avec mes amis. Chantibiscuit, je le fais aussi pour partager quelque chose aux gens. En fait, Chantibiscuit, c'est un cadeau, donc c'est, le but, c'est de créer du lien. Et je pense aussi à travers ça, j'essaie de me débloquer et de sortir de mon côté seul pour me rattacher un peu au monde, entre guillemets, et créer du lien avec les gens. Un peu grâce au biscuit aussi, je pense.
Et en matière de consignes ou conseils pour d'autres entrepreneurs qui peuvent être en train d'écouter, enfin, je veux dire, c'est vrai pour tout le monde, mais comment est-ce que tu constitues un réseau? Est-ce que tu as, à ton âge, ton expérience, une vision de comment intentionnellement créer son bon réseau?
Oui, en fait, je pense qu'il faut tout simplement demander aux personnes, aller les voir, et moi, ça m'est arrivé plein de fois dans les deux sens. Soit que je vois quelqu'un sur LinkedIn ou sur Insta, j'adore ce qu'il fait, ou je sais pas, j'aime bien la personnalité, je dirais salut, ça te dirait qu'on prenne un café un jour. Bon, après, c'est facile de le dire quand tu es Chantibiscuit et que tu incarnes une marque, etc., de susciter l'intention, mais moi je l'ai eu dans les deux sens. Des gens qui me contactent parfois, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Alors au début, je disais oui à tout le monde, et j'ai énormément de plus proches amis aujourd'hui qui sont nés comme ça, en fait, de j'ai une boîte à côté de chez toi, j'ai vu ce que tu fais, ça m'inspire, ou n'importe quoi, et je dis vas-y, on déjeune ensemble, en fait. Et donc aussi naturellement que ça, et il faut juste pas avoir peur que la personne dise non en face. Elle te dit au moins t'as tenté, tu te poses pas la question toute ta vie, j'aurais peut-être dû lui demander, etc. Et même sinon, s'il y a quelqu'un qu'on veut vraiment rencontrer, de suivre un peu ce qu'il fait et de rebondir sur quelque chose de pertinent. Là, j'ai lu un article LinkedIn, j'ai vu ton post, comment ça se passe, tes vacances, ou j'en sais rien, de créer un peu du lien et après de provoquer, mais truc sincère, et après d'essayer de provoquer la rencontre en vrai. Et je pense qu'il faut le voir comme ça, une personne après l'autre, sans forcément. Moi, je ne suis pas du tout dans les soirées networking, etc. Enfin, déjà, je déteste ce mot où tu as l'impression que tout est superficiel et c'est juste se servir les uns des autres. Alors que mon réseau, moi, il s'est plus créé naturellement comme ça, de rencontres, de mise en relation, de « là, j'ai une copine qui fait ça, qui est dans une situation que tu as pu vivre, tu veux bien lui parler. » Au final, elle te sympathise, elle te présente quelqu'un d'autre. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, quoi.
Oui, et de fil en aiguille.
Oui.
Mais tu dis ça et je le vois… En te parlant, tu embarques les gens facilement.
Oui, ça, je m'en suis pas rendu compte au début, mais j'ai compris que c'était une de mes forces d'arriver à emmener les gens dans Chantibiscuit ou même au-delà de ça. Et j'ai réalisé il y a quelques temps que j'ai l'impression que les gens sont très à l'aise avec moi, d'être naturel, de me raconter des choses parfois perso alors qu'on se connaît à peine. De parler de sa vulnérabilité, etc., parce que je renvoie ça. Et je ne sais plus si c'était quoi la question.
C'était pas une question. C'est justement ça qui est sympathique. On était en train de parler de l'engagement.
Et en fait, c'est ça. Voilà. Et je pense que juste le fait d'être naturel et de pouvoir se parler sans mettre un masque, un filtre. Et puis après, Chantibiscuit, c'est un produit fun, voilà, qui parle à tout le monde, c'est très universel, tout le monde le comprend, tout le monde pourrait être client. J'ai plein d'histoires à raconter dans la boîte, autant drôles avec les messages des biscuits que des choses que j'ai pu traverser. Et puis en plus, comme 10 ans de boîte, j'en ai traversé des moments différents, autant levée de fonds que... installation dans le local, opération de com complètement décalée, etc. Donc, j'ai toujours plein d'histoires à raconter. Donc, il y a un truc fun de par ça. Je pense que n'importe quoi peut être rendu fun aussi. Mais...
c'est sûr. Enfin, c'est, quelque part, comme les stoïques disent, ce n'est pas ce qui se passe à toi, c'est comment tu réagis à ce qui se passe à toi qui est important. Il y a en France une loi qui s'appelle la loi Pacte qui demande à ce que les entreprises aient une raison d'être. Et je me demandais si ça c'est... Enfin, parce qu'en fait, quelque part, c'est l'administration qui le demande pour les grandes entreprises et certains types d'organisations. C'est quelque chose dont on commence à parler un peu académiquement. Pour toi, raison d'être, ça rime à quoi et combien c'est important dans la réussite?
Pour moi, la raison d'être, c'est la mission de la boîte. Pourquoi tu es là? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens et au monde? Et c'est une question que je me suis toujours posée chez Chantilly Biscuit. C'est quoi la mission de Chantilly Biscuit? Et je n'ai jamais eu la réponse. Après 10 ans, et j'ai essayé plein de fois de faire cet exercice avec des agences, avec des personnes dont c'est le métier, etc. Et en fait, on peut tellement avoir de visions différentes de l'utilité de Chantilly Biscuit. Tu vois, on pourrait être notre raison d'être, ça pourrait être de créer du lien entre les gens avec s'offrir des biscuits. Ça pourrait être t'apprendre à pas te prendre au sérieux. Ça pourrait être assume qui tu es. Ça pourrait être quelque chose de plus sur les mots que moi d'instinct. Je dirais un mix de créer du lien entre les gens et s'exprimer peut-être au sens très très large, exprimer sa personnalité, exprimer ce qu'on a envie de dire. C'est plus facile de dire quelque chose de délicat sur un biscuit qu'à l'oral. C'était un peu aussi pour ça que j'ai créé Chantilly Biscuit, je pense, inconsciemment. Et je pense que c'est aussi avoir une raison d'être et une mission, ça donne une direction à la boîte, aux personnes, on sait pourquoi on fait ça. Et si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, dans quel but et ce que tu apportes au monde aussi, tu as voilà, beaucoup moins d'envie de le faire.
Ma petite tête de marketing, tu utilises les mots comme énergie et grâce. Et je suis persuadé que dans une raison d'être future, il peut y avoir au moins un de ces deux mots. Alors, maintenant, quel est l'avenir pour Chantilly Biscuit?
Pour Chantilly Biscuit, le podcast va sortir quand?
C'est une bonne question. Avant la fin de l'année.
OK. Pour Chantilly Biscuit, moi, mon enjeu aujourd'hui, déjà au sein de Chantilly Biscuit, c'est d'arriver à garder l'énergie et la motivation et que je trouve dans la partie créative et dans le fun. Voilà. Moi, c'est vraiment, j'ai besoin de m'amuser. Et continuer de s'amuser sur un terrain de jeu que j'ai depuis 10 ans, avec aussi moins de moyens qu'avant, parce que contexte économique compliqué, etc. Ça, c'est mon gros enjeu dans la boîte. Et à côté de ça, ben, c'est maintenant aussi mettre plus de temps et de créativité et de ce que j'aime faire en dehors aussi. Parce que je sens que j'ai des choses qui arrivent à moi, des projets, etc., et qui me stimulent aussi beaucoup, et je peux être parfois frustrée d'être un peu réduite à Chantilly Biscuit. Donc là, c'est comment je peux prendre plus de temps ailleurs, avec le fonctionnement de la boîte, de l'équipe, etc., pour pouvoir faire d'autres choses, d'autres projets, je ne sais pas encore quoi, mais par exemple, le livre, ça a été génial pour ça, parce que c'était mon petit projet à moi, à côté, et bah, c'était... très créative justement et j'ai adoré le faire et ça c'est mon enjeu je pense à 2023-2024, c'est comment je m'organise pour faire d'autres choses à côté, que Chantilly Biscuit tourne et que je continue quand même de m'amuser sur Chantilly Biscuit pour toujours insuffler l'ambition, l'énergie, etc.
Alors ça, on va terminer sur un chapitre que tu as intitulé qui m'a touché parce que c'est une phrase qui m'a été dit lorsque je suis rentré chez L'Oréal, on en parlait juste avant l'entretien. Et le titre de ce chapitre, c'est « Le blues de la businesswoman ». Est-ce que ça incarne, dans ce que tu viens de dire, cette difficulté?
Exactement. Il y a eu aussi des moments où on passe des paliers. Et entre les paliers, il y a un moment très désagréable où on se sent coincé. On n'arrive pas forcément à faire plus. Ben, je m'amuse plus forcément. Parce qu'il y a des nouvelles équipes, donc je dois faire valider aussi, je n'ai plus le même rôle, où est ma place, comment je m'amuse, qu'est-ce qu'on fait. Même parfois d'être frustrée de ne pas faire plus grand, plus vite, de me sentir coincée dans la boîte aussi. Et après, ça c'est aussi le travers des réseaux sociaux, c'est qu'on voit toutes les autres personnes d'entreprise, on se compare. On a toujours l'impression que les autres font mieux, etc. Donc, il y a un côté, nous, on n'a fait que ça en 10 ans, alors que l'autre, en 2 ans, elle en est là, etc. Donc, t'es un peu toujours déçu. Donc, ouais, j'ai eu des moments de blues, vraiment. Et après, en fait, je cherchais aussi un titre au chapitre. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à me considérer comme une businesswoman. En fait, j'ai l'impression que faire du business, c'est la conséquence plus que ce que je suis en tant que tel. Après, voilà, je comprends comment ça marche, etc. Et j'adore la logique derrière. Mais et on est là pour faire du business parce que c'est grâce à ça qu'on a la capacité de développer Chantier Biscuit. Mais en soi, c'était aussi, je pense, pour dire, parfois on était trop dans les chiffres et il faut vendre des biscuits, etc. Et moins dans... Moi, j'aurais voulu être une artiste. Je suis sur les réseaux. Mais...
et oui, et moi aussi. Je pense qu'en fait, quelque part, Chantier, ça c'est mon dada, c'est comment avoir une raison d'être personnelle qui se retrouve dans la raison d'être de ton travail. Donc, pour un entrepreneur, c'est un peu plus facile.
Oui.
Mais cette difficulté est encore plus grande, j'ai envie de dire, pour la plupart des employés d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs et patrons. Et quand on n'a pas quelque chose qui permet de te retrouver dans ton travail, on se sent détaché. Comme disait Marx, en fait, on a une dissociation avec son travail. Donc, après, forcément, on a une dissociation avec soi-même. Et ça, c'est malheureux et ça entraîne plein de travers, de problèmes de santé mentale et tout.
Ah ben, je suis totalement d'accord que c'est beaucoup plus facile d'avoir une raison d'être quand c'est ta boîte. Parce que la boîte en soi, déjà, devient hyper importante, un peu ta raison d'être aussi. Et comment tu arrives à ce que les employés se l'approprient, et c'est vrai que c'est un vrai défi et que ça touche tout le monde. Et nous, la chance qu'on a avec Chantier Biscuit, c'est que bah, déjà, tous les jours, on a des commandes différentes avec des messages. Et tu sais que tu participes à la vie des gens. Enfin, tu lis la vie des gens. Tu lis les annonces de grossesse, tu lis les demandes en mariage, etc. Donc, rien que ça, tu sais que tu participes. Et même, en plus, on a très souvent des retours donc, que je partage à l'équipe. Et tu te dis, ouais, on était au mariage. Et nous, il y a une vraie culture de la satisfaction au client, parce qu'on se dit, ouais, les gens, ils achètent le biscuit, pour un biscuit, en plus, c'est assez cher, pour un événement de leur vie, et il faut qu'on arrive à être au rendez-vous pour qu'ils puissent être contents et passer son biscuit et dire, faire sa demande en mariage, et tu participes à ça, en fait. Voilà.
Il y a des traces,
ouais.
des traces émotionnelles, mais toujours aussi gustativement intéressantes dans l'estomac. Ouais. Je vais terminer par faire un tour de chapitre, les titres de chapitre, car en fait, ça montre bien l'esprit de ton livre pour ceux qui écoutent, pour donner envie pour ceux qui aiment avoir une vraie histoire. Tu vas me dire lequel de ces six chapitres est ton préféré, juste le titre.
Juste le titre, ok.
Ouais, de Chantilly à Chantilly Biscuit, c'est pas du gâteau. La fin. FAIM justifie les moyens. I'm the biscuit bitch. I can't get no satisfaction. On parlait justement de satisfaction. Et plus de beurre que de mal.
Ah bah, sans hésiter, I'm biscuit bitch.
Génial. Écoute, Chantilly, merci de ton énergie, merci de tes biscuits, ta passion, ta mission, et d'avoir participé dans mon podcast. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre le plus facilement et surtout enquêter comment eux, ils peuvent se faire un geste, un gâteau, un cadeau à quelqu'un qui est distinct, comme avec Chantilly Biscuit.
Pour nous suivre, le meilleur endroit, c'est Instagram. Après, pour me suivre, moi, en perso, c'est un peu plus LinkedIn maintenant. Et sinon, sur notre site, chantillybiscuit.com, pour commander les biscuits.
Je vous encourage de découvrir le livre « La vraie histoire de Chantilly Biscuit », c'est aux éditions Erol, et d'aller chercher ces yam 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 biscuits sur chantillybiscuit.com. Merci beaucoup, Chantilly.
Merci à toi.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me.
in me lying. I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die suburb. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle, deceive. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man. Finds a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man.
Welcome, change agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you, and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, or wherever you love listening to your favorite podcasts.